Après cette première partie du culte axé sur la mission, au travers de l'exemple du sel notamment, j'aimerais que nous puissions nous poser la question de notre mission à nous, chrétiens individuels, dans notre ville, dans notre quartier, et en tant que nous aussi, église locale. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à lire ensemble deux textes rédigés par Luc, l'un dans l'évangile de Luc et l'autre dans le livre des Actes des Apôtres. Alors tout d'abord un texte dans Luc chapitre 24, les versets 44 à 49. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Puis il leur dit, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour, et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et un autre texte dans le tout début du livre des Actes, au chapitre 1, les versets 7 à 9. Toujours Jésus qui parle à ses disciples. « Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Alors, la fin de l'évangile de Luc et le début des Actes, les textes que nous venons de lire, nous racontent la fin de la présence de Jésus sur terre. Le Christ était venu sur terre pour un temps. Ce temps se termine, ça y est, il retourne auprès de son Père, auprès de Dieu, pour y recevoir, d'après la Bible, l'autorité sur toute chose. Si Jésus était venu sur terre, c'est pour une bonne raison, il avait une mission à accomplir. Et il le dit lui-même dans notre passage de Luc 24. Je vous relis ce verset. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. La mission du Christ était de venir accomplir les promesses de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Il devait venir sur terre pour souffrir, pour mourir et pour ressusciter. Il devait payer le prix de notre salut, du salut des hommes, des êtres humains. L'être humain est en rébellion avec son Dieu. Il ne le connaît pas ou il ne veut pas le connaître. L'homme a décidé de vivre sa vie selon sa propre volonté et non pas selon le bien, la volonté de Dieu. Et les fautes de l'être humain méritaient une sanction. Mais par amour pour nous, Dieu a décidé de recevoir lui-même la sanction que nous méritions. Il l'a fait pour que nous puissions être pardonnés, réconciliés avec lui. C'était la mission de Jésus sur terre et cette mission est un succès. Le Christ a effectivement, malheureusement, souffert et il a été mis à mort. Mais 3 jours après, il est ressuscité. Et depuis lors, tous ceux qui croient en lui sont au bénéfice de ce sacrifice. Ils sont sauvés en Jésus-Christ. C'est un très beau happy end, comme on en voit au cinéma, une belle fin. Le Christ a accompli sa mission et maintenant il peut retourner auprès de son Père, auprès de Dieu, pour reprendre sa place à ses côtés. Mais relisons ensemble dans notre texte de Luc 24, le résumé que Jésus fait des promesses de l'Ancien Testament qu'il est venu accomplir. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, c'est fait, qu'il ressuscitera le troisième jour, c'est fait, et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Le Messie qui souffre et qui ressuscite le troisième jour, ça, c'est fait. C'était la mission de Jésus. Mais la promesse continue, elle va plus loin. La mission de Jésus est terminée, mais il reste du travail à faire. Il faut annoncer un message de sa part à lui. Donc c'est quelqu'un d'autre que Jésus qui doit le faire. Quelqu'un doit être envoyé de la part de Jésus pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle de l'Évangile. La mission de Jésus est terminée, mais la mission, elle, continue. Elle change juste d'acteur. Une mission s'achève, une autre commence. On pourrait voir ça comme un passage de témoin, d'un acteur à un autre, dans ce grand plan de salut de Dieu pour l'humanité. La mission qui reste à accomplir, c'est de témoigner de l'œuvre de Jésus. Le Christ est mort pour sauver les hommes, il faut le faire savoir. Il faut annoncer aux hommes que s'ils croient en Jésus et s'ils se repentent de leurs fautes, alors ils seront sauvés gratuitement en Christ. Ils auront la vie éternelle auprès de Dieu. Vous comprenez bien toute l'importance cruciale de cette mission. Il faut donc des témoins, des porte-paroles qui aillent dans le monde annoncer la repentance et le pardon en Jésus-Christ. Et ces témoins, c'est Jésus lui-même qui les choisit. Il les désigne dans notre second texte, celui d'Acte 1. Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Les témoins du Christ seront donc ses disciples. Les disciples de Jésus auxquels il est en train de s'adresser dans ce texte, à son époque, doivent annoncer son message jusqu'au bout du monde. C'est la mission que Jésus leur donne. Et bien évidemment, cette mission, le Christ ne la confie pas qu'aux disciples présents avec lui ce jour-là. Une vie entière ne suffirait pas pour annoncer ce message jusqu'au bout du monde. Nous, aujourd'hui, nous sommes également les disciples de Jésus. Nous sommes aussi ses témoins. Des témoins indirects, d'accord, mais des témoins quand même. Nous sommes des témoins parce que nous avons reçu, par la Bible, le témoignage direct des premiers croyants. Cette mission que Christ confie à ses disciples, il nous la confie, à nous aussi. Dans ces textes, nous assistons réellement à un passage de témoins, dans tous les sens du terme. Dans l'histoire de l'Église, des témoins transmettent aux témoins suivants le message que le Christ nous a confié. Lorsqu'on nous confie une mission, on peut avoir plusieurs réactions différentes. Et c'est sur ce point que j'aimerais m'arrêter ce matin. Comment réagir face au Christ qui nous confie une mission? Je sais, on aurait peut-être naturellement tous envie de dire, il suffit de dire oui. Mais c'est pas si facile. Une mission qui implique toute une vie, c'est pas une décision facile à prendre. Comment réagir? Et pour creuser un petit peu la question de manière paisible et imagée, on va s'appuyer sur une œuvre littéraire non chrétienne, mais écrite par un chrétien. Une œuvre où l'auteur s'est grandement inspiré de la Bible et surtout de la mission du Christ et de l'Église. C'est une œuvre extrêmement connue de nos jours, mais vous l'avez peut-être jamais vue sous cet angle. Cette œuvre, c'est celle de John Ronald Reuel Tolkien, J.R.R. Tolkien, le père de l'héroïque fantasy moderne et l'auteur, entre autres, du livre Bilbo le Hobbit et du chef-d'œuvre Le Seigneur des Anneaux. Dans ses œuvres, Tolkien s'est beaucoup inspiré des récits bibliques parce qu'il était chrétien et il a notamment amplement utilisé les thèmes de la mission, de l'appel, de la transmission de la mission d'un personnage à un autre, ainsi que les thèmes du sacrifice de soi et de l'engagement qui touche une vie entière. C'est pourquoi j'ai trouvé intéressant d'illustrer notre réflexion par des extraits, des adaptations cinématographiques de ses œuvres. Et notre réflexion, je le rappelle, c'est comment réagir à l'appel du Christ, à la mission qui nous est confiée. Et nous allons justement commencer notre réflexion par une première vidéo extraite du film « Bilbo le Hobbit ».
Puis-je vous aider ?
C'est ce que nous verrons. Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure.
Une aventure ? Non, je ne vois personne à l'ouest de Brie qui se montrerait intéressé par des aventures. Ce sont des choses désagréables qui ne vous apportent que des ennuis et retardent votre dîner. Ça va aller. Il faut seulement que je reste assis tranquillement.
Vous restez assis tranquillement depuis bien trop longtemps.
Dites-moi, depuis quand les napperons et la vaisselle de votre mère sont-ils si importants à vos yeux ? Je me souviens d'un jeune hobbit qui courait sans cesse les bois à la recherche des elfes, qui ne rentrait au logis qu'à la nuit tombée, en laissant dans son sillage de la boue, des brindilles et des lucioles. Un jeune hobbit qui aurait été trop heureux de découvrir ce qu'il y a au-delà des frontières de la comté. Le monde n'est pas dans vos livres et dans vos cartes. Il est là, dehors.
Dans cet extrait, nous voyons une première manière de réagir face à la mission qui nous est confiée. Nous y voyons une personne qui a une vie paisible, confortable, stable, heureuse. Ces choses sont bonnes. La Bible nous dit même que pouvoir jouir d'une telle vie, c'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu nous accorde. Mais quand cette personne se trouve confrontée à la mission qui lui est donnée, elle a peur. Peur de l'inconnu. Peur des changements qui pourraient survenir dans sa vie paisible. Peur de perdre son confort de vie. Peur aussi du monde extérieur. Ce personnage a toujours lu des livres qui lui parlaient du monde, mais comme le mage Gandalf le dit si bien, le monde ne se trouve pas dans vos livres et dans vos cartes. Nous, chrétiens, nous tenons, et à juste titre, beaucoup à l'étude de la Bible, la parole de Dieu. Et nous cherchons également le plus possible à vivre des moments fraternels entre nous, notamment entre ces murs. Ces choses sont très bonnes. Mais la mission que le Christ nous a confiée, c'est d'apporter son message au monde. Et le monde ne se trouve pas dans nos livres. Il ne se trouve pas dans notre Bible. Il est là, dehors. À quoi servirait-il de connaître en profondeur le message du Christ si nous ne répondons pas à son appel d'apporter ce message au monde ? Notre étude de la parole de Dieu doit avoir pour but l'annonce de cette parole. Une vie paisible, confortable, stable, heureuse, comme celle du personnage de notre vidéo, c'est un don de Dieu. Je le rappelle, c'est un don de Dieu. C'est une bonne chose. Mais ce cadeau de Dieu ne doit pas devenir un obstacle à la volonté de Dieu pour nous. Il est normal d'avoir peur face à l'ampleur d'une mission pareille. C'est une mission qui nous dépasse, il faut le reconnaître. Annoncer un message à tous les hommes de la terre, c'est juste affolant. Et d'ailleurs, dans les textes bibliques que nous avons lus, lorsque Jésus a confié cette mission à ses disciples, puis qu'il a disparu, qu'il s'en est retourné vers son Père, les disciples sont restés comme bêtes, à regarder le ciel. Ils sont restés bloqués, paralysés par le départ du Christ et par la mission qu'il venait de recevoir. Ils étaient sûrement terrifiés. Il est normal d'avoir peur parce que nous sommes des créatures limitées. Nous ne pouvons pas accomplir cette mission seuls, par nous-mêmes, avec nos moyens, avec nos forces. C'est pour ça qu'au moment de quitter ses disciples, le Christ leur annonce qu'il va leur envoyer son esprit en eux, pour les guider, pour leur donner la force, le courage, la sagesse, afin qu'ils puissent répondre à cet appel et accomplir cette mission qui leur est confiée. Il est normal d'avoir peur, mais ça ne doit pas nous amener à refuser la mission que le Christ nous confie. Nos craintes ne doivent pas nous pousser à rester confortablement et paisiblement entre nous, entre ces murs, ou même dans nos Bibles, en faisant comme si le monde, lui, n'existait pas. Comment réagir face à cette mission ? Nous pouvons y réagir par la peur et le refus. Mais encore, voyons ensemble Une deuxième vidéo extraite cette fois du premier opus de la trilogie Le Seigneur des Anneaux.
L'anneau ne peut être détruit, Gimli, fils de Gloïn, par aucun moyen en notre possession. Il faut l'emporter dans les profondeurs du Mordor et le jeter dans l'abîme flamboyant d'où il est apparu autrefois. L'un de vous doit le faire.
Je vais le faire!
Et vous n'en avez que faire de mon peuple, que ce soit la chute du Mordor.
Je vais le faire! Je vais porter l'anneau en Mordor. Bien que je ne connaisse pas le moyen.
Dans cet extrait, nous voyons une mission qui doit être accomplie. Et il y a deux types de personnes qui sont présentes. D'un côté, les puissants, les guerriers, les mages, les rois, qui sont en train de se disputer. Se disputer pour savoir qui est le plus légitime pour accomplir cette mission. Ils pensent en être dignes, chacun, mais ils pensent aussi que les autres ne le sont pas. Mais il y a une dernière personne. Cette personne n'est ni un roi, ni un guerrier redoutable, ni un mage très puissant. Il a peur. Il avoue ne pas savoir comment faire pour accomplir la mission qui lui est confiée, et je pense qu'il nous ressemble beaucoup. Pourquoi le Christ nous confie-t-il cette mission? La mission d'être ses témoins, ses porte-paroles, ses représentants. Parce que nous sommes des personnes influentes, puissantes, extraordinaires? Manifestement non. Dieu n'a pas besoin de personnes extraordinaires. Il a besoin de personnes humbles, fidèles et volontaires. La force, la sagesse, le courage, les dons nécessaires à l'accomplissement de cette mission, c'est Dieu lui-même qui les donne par son esprit en nous. Avoir peur n'est pas une faute. C'est normal, parce que comme le héros de l'œuvre de Tolkien, nous sommes si faibles, si petits face à l'ampleur de la mission que Dieu nous confie. Mais malgré tout, comme lui, tout en ayant conscience de nos limites, de nos faiblesses, il nous faut pouvoir nous lever et dire « Je vais le faire », parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Que nous répondions à son appel, que nous comprenions l'importance et l'urgence de cette mission, et que nous puissions agir en disciples humbles, fidèles et volontaires, pour être les témoins du message d'amour et de salut que Dieu adresse au monde. Comment réagir face à la mission que Dieu nous confie? Nous pouvons l'accepter malgré nos faiblesses. Nous pouvons dire avec zèle la même chose que ce héros dans le film de Tolkien, « Je vais le faire », tout en reconnaissant aussi comme lui, humblement, et peut-être avec crainte, bien que je ne connaisse pas le moyen. Mais ça, c'est le premier pas, j'ai envie de dire. C'est le moment où l'on accepte. Mais qu'en est-il dans la durée? Que se passe-t-il face aux difficultés? Eh bien, pour y réfléchir, voyons d'abord ensemble un troisième extrait vidéo, extrait toujours de la trilogie Le Seigneur des Anneaux.
Je voudrais que l'anneau ne soit jamais venu à moi. Que rien de tout ceci ne se soit passé.
Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti.
C'est comme dans les grandes histoires, monsieur Frodon. Celles qui importaient vraiment. Celles où il y avait danger et ténèbres. Les personnages de ces histoires avaient 36 occasions de s'en retourner, mais ils ne le faisaient pas. Ils continuaient leur route. Parce qu'ils avaient foi en quelque chose.
En quoi avons-nous foi, Sam ?
Il n'y a pas que le premier pas qui soit difficile. Le cheminement qui suit la prise de décision l'est tout autant, voire même plus. Faire le pas de répondre à l'appel que le Christ nous lance, ce n'est pas se lancer dans un chemin de joie et de paix absolue. C'est dur. Ça peut être même une lutte. Nous pouvons rencontrer l'opposition, la moquerie, la haine, ou même, tout simplement, l'indifférence. Et même si nous avons l'Esprit de Dieu en nous pour nous donner la force d'avancer, il y a fatalement des moments où nous pouvons regretter. Regretter la stabilité et, j'ai envie de dire, l'insouciance de notre vie d'avant. Regretter notre confort, regretter notre choix. Nous pouvons aussi nous décourager devant les difficultés, devant le manque de fruits visibles ou devant l'immensité de ce qu'il reste à faire. Nous pouvons enfin douter. Douter de nous-mêmes, mais aussi parfois douter de Dieu. Douter de notre foi, douter de sa fidélité. Le héros de l'œuvre de Tolkien passe par tous ces états durant son périple, et nous pouvons aussi en passer par là durant notre vie chrétienne. Alors comment ? Comment continuer malgré tout ? Comment ne pas céder au regret, à la facilité, au découragement ou au doute ? C'est le compagnon du héros qui nous donne la réponse. Il nous dit « Ceux dans la difficulté ont 36 occasions de rebrousser chemin, mais ils ne le font pas, parce qu'ils ont foi en quelque chose. » Et le héros de poser cette question « En quoi avons-nous foi ?» En quoi avons-nous foi ? Nous avons foi en un Dieu d'amour et de justice, un Dieu qui a donné sa vie, la vie de son Fils, pour que les hommes puissent être pardonnés, sauvés. Nous avons foi dans la fidélité et la puissance de ce Dieu. Nous avons foi dans son Esprit qu'il nous accorde pour pouvoir le connaître, pour pouvoir avoir une relation personnelle avec lui, mais aussi pour agir comme il le souhaite. Nous avons foi dans ce que Dieu nous a adoptés comme ses enfants, qu'il a fait de nous tous des membres de sa famille, qu'il a fait de nous ses héritiers, et que la volonté de Dieu pour sa famille doit aussi devenir notre volonté propre pour notre famille. Nous avons foi dans l'importance cruciale de la mission que le Christ a confiée à ses disciples, à son Église. Voilà en quoi nous croyons, voilà en quoi nous avons foi. Et tout comme ces personnages de cette histoire, c'est notre foi qui nous maintient sur le bon chemin, malgré les difficultés, les craintes, les regrets ou les doutes qui viendront, Mais notre foi personnelle, mais aussi notre foi collective, nous garde sur ce chemin. Je rajoute notre foi collective parce que si nous sommes réunis, si nous nous rassemblons en communauté, ce n'est pas uniquement pour notre plaisir et bien-être personnel, ça en fait partie, mais pas uniquement. C'est aussi parce que nous reconnaissons que seuls, isolés, la mission nous dépasse. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de nous soutenir, de nous encourager. Et nous avons besoin aussi d'œuvrer ensemble à la mission que le Seigneur nous confie. S'il nous a unis, s'il a fait de nous une famille, s'il a fait de nous un corps, pour reprendre la métaphore de l'apôtre Paul, c'est aussi dans ce but, répondre individuellement et collectivement à l'appel que le Seigneur nous a lancé, à la mission que Dieu nous a confiée. Les textes que nous avons lus marquent la fin de la mission du Christ sur terre, mais ils marquent aussi le début de la mission de l'Église. C'est un passage de témoin. L'ampleur et l'importance de cette mission peuvent nous effrayer, nous décourager, nous faire douter. Mais souvenons-nous, ce n'est pas par nos propres forces que nous avançons. Dans les textes que nous avons étudiés, les disciples ne partent pas en mission dès que le Christ les a quittés. Il y a un autre événement indispensable avant de devenir un témoin de la bonne nouvelle. C'est le Christ qui nous l'affirme. Cet événement, c'est la venue du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit, Dieu lui-même en nous, qui peut nous mettre en avant, qui peut nous donner la force et les dons nécessaires afin d'agir selon sa volonté. N'ayons pas peur de ne pas être à la hauteur, tout simplement parce que nous ne sommes pas à la hauteur. Reconnaissons-le humblement et n'en ayons pas peur. Mais demandons à Dieu son aide en toutes choses dans la prière. Demandons à Dieu de nous fortifier, de nous encourager, de nous unir par son esprit. Avant de recevoir l'esprit, en acte 1, il nous est dit que les disciples se retrouvaient dans une maison pour prier entre eux. Mais dès la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, ils sortent de cette maison et ils commencent à témoigner de la bonne nouvelle du Christ pour tous les hommes. Ayons à cœur cette mission, cet appel. Ne soyons pas effrayés ou découragés. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ensemble et l'Esprit de Dieu est avec nous. Il reste cependant une dernière question qui servira aussi de conclusion. Comment ? Comment puis-je participer à cette mission que Dieu me confie, qu'il nous confie ? Que faire ? La réponse pourrait être très vaste. Certains préfèrent les actions à grande échelle, faire par exemple de l'événementiel qui puisse marquer les esprits, qui puisse toucher jusqu'à une ville entière. Pourquoi pas ? Mais j'aimerais ce matin vous proposer à chacun et ensemble une autre voie, un autre moyen. Un moyen accessible à tous et pour lequel nous devons nous entraider, nous encourager. Et ce n'est d'ailleurs pas moi qui vais vous le proposer, mais je laisserai ce mot de conclusion à l'œuvre qui nous a guidés, qui a illustré notre réflexion, celle de Tolkien.
Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour.
Voilà le moyen que je vous propose ce matin. Amen.